Fauchée de Saint-Maurice à la Brunante. Belle aux cheveux blonds. Première partie. Bal chez Bernard. Le 15 septembre 1862, il y avait bal chez Martin Bernard, riche cultivateur d'un des plus coquets villages du comté de Verchères. 2 mois s'étaient passés depuis que Rose, la blonde, comme on l'appelait au couvent de Mariaville, avait quitté ce nid d'amis dévoués et pendant ce temps, sans s'en douter le moins du monde, elle était mise à l'épreuve par Maître Martin, que l'on avait souvent blâmé d'avoir voulu donner à sa fille, paysanne comme les autres, une éducation de demoiselle. À la grande satisfaction des joues rubicondes de monsieur son père, Rose n'avait trop abusé ni de Chopin ni de Wagner, car Martin, pour mieux éblouir ses collègues du conseil municipal, avait voulu avoir son piano. Un Steinway superbe. Toujours ses bas de laine étaient trouvés chaque matin délicatement ravaudés et douillettement pelotonnés sur la courte pointe de son lit à baldaquin. Le déjeuner et le dîner arrivaient à point, précédés d'un parfum de cuisine des plus appétissants. 20 minutes après les grâces, la faïence à fond blanc, ramagée de larges fleurs bleues et rouges, brillait proprette et luisante dans l'armoire vitrée de la salle, et puis Rose, tout en s'acquittant à merveille de ses devoirs de ménagère, savait si bien lire et commenter la Gazette au grave conseiller, elle était si bonne, si sage, si avenante, que Maître Martin n'avait pu résister à la tentation de la montrer à ses compères villageois. Ce soir-là, on dansait donc à cœur joie dans la maison des Bernard. Vieux débris de l'ancienne architecture française, laissant entrevoir au clair de la lune sa large toiture rouge, appuyée sur de solides murs en pierre blanchie à la chaux, dont la couleur mate était coupée çà et là par les troncs raides et noueux d'une rangée de peupliers qui laissaient voir, à travers les échappées de leurs branches, une gracieuse file de persiennes que Maître Martin avait soin de passer lui-même au vert chaque printemps. La cohue villageoise encombrait partout le logis Bernard. Au fond de la salle, où d'ordinaire se tenait le jovial conseiller, on entrevoyait, à travers un épais nuage de fumée, le gros ventre de Pierre Michon. Jean-Baptiste Duranceau le faisait bondir de joie à chaque forte saillie tombée de ses lèvres. Tandis que plus loin, tout près de l'immense poêle en fonte qui se reposait en ce moment du travail de l'hiver précédent, Jérôme Branchot et Étienne Pelchat reprenaient pour la 100e fois une chaude discussion à propos d'une part de route éternellement contestée entre leurs 2 amitiés. Au milieu de toutes ces têtes blanchies et courbées au contact de la charrue, passaient les notes basses de la voix du maître de séant, qui en ce moment développait avec complaisance un sien projet de code municipal destiné à mettre fin aux querelles des Branchaux et des Pelchats de l'avenir. Cette démonstration philanthropique n'empêchait pas les mains rugueuses de l'honnête habitant de verser çà et là à ses convives de rudes rasades d'un vieux rhum blanc qu'il tenait de son grand-père et que ses invités tenaient pour bon à leur tour, à n'en juger par le crescendo de bruit et de gaieté qui sortait par les fenêtres basses de la salle, entr'ouvertes pour laisser échapper le parfum par trop aromatique du tabac de la récolte Bernard, qui en ce moment subissait un terrible assaut. La cuisine faisait contraste à cette pièce, sa voisine, car il y régnait un silence et un ordre absolu. 2 chandelles placées sur une énorme table de sapin mettaient en lumière un paysage comme seuls les aimaient et pouvaient les rêver Gargantua. C'étaient des montagnes de croquignoles dorées et de pâtisseries tachetées çà et là par du sucre blanc glacé. À leurs pieds dormaient des lacs de crème jaune où flottaient comme des nénuphars des œufs à la neige. Puis s'élançaient des falaises grisâtres de jambon fumé, cachant un peu plus loin une mare de sirop et de confiture. D'où sortaient comme des îlots les dindons rôtis, les hures de porc, les oies aux pommes, tout cela à côté d'une lagune de tire de sucre d'érable, bornée par des collines de tourtières et de langues piquées d'aromates. Et de ces bonnes choses, aussi loin que l'œil pouvait aller. Jusque dans l'ombre faite par le vieux bahut et le grand coffre bleu de la servante. Pendant qu'au-dessus de cette terre promise, suspendues à la muraille, miroitaient comme des nuages argentés les antiques couvercles à plat, fraîchement étamés. Le petit doigt de Rose avait fait surgir toutes ces merveilles hors du garde-manger de l'honnête cultivateur, et pendant que, muettes, elles attendaient en paix le rude coup de fourchette de minuit, on entendait venir clair et timbré le rire argentin de la jeune fille à travers les rumeurs qui arrivaient du salon. Le père Bernard venait d'y faire son entrée, ayant à son bras Madame Robidoux, la mairesse, et profitant du moment où le rhum blanc laissait errer sur les anciens une bouffée de jeunesse, aux applaudissements de tous, il organisait un menuet. Danseurs et danseuses finirent par prendre place au milieu des sonores invitations de M. Bernard. Et bientôt, tous ces beaux et toutes ces élégantes du temps passé se mirent en branle, au son joyeux de deux violons et de la voix aigrelette d'une vieille clarinette. Le plaisir régnait en maître sur ses têtes, et, profitant de la joie générale, Rose s'était glissée auprès d'une fenêtre, défendue par de grands rideaux rouges, achetés à l'enchère des meubles du seigneur ruiné. Là, une douce causerie avec son cousin Jules l'attendait. Belle aux cheveux blancs, partie 2. Une vocation. Jules était le fils du grand Michel Porlier, le bedeau de la paroisse. À force d'aligner à la file les uns des autres, mariage, baptême et sépulture, Michel avait su amasser quelques économies, qu'il avait en grande partie consacrées à l'éducation de son fils, et cela sans trop se faire tirer l'oreille par sa femme Marguerite. À la grande satisfaction de l'orgueil paternel, Jules venait de terminer au mois de juillet précédent son cours d'études classiques au collège de Terrebonne, où l'un de ses oncles était directeur. Et comme, malgré les conseils du bon abbé, il n'avait pu se résoudre à suivre l'état ecclésiastique, ses idées tâtonnaient à la recherche d'une vocation sans pouvoir se fixer sur aucune. Si ce n'est sur les yeux bleus de sa cousine Rose qui, en ce moment, lui disait doucement: « Vous paraissez tout triste ce soir, Jules, est-ce que vous ne seriez pas décidé à suivre les avis que vous a donné mon père ?»«
Faire mon droit ? Mais vous n'y pensez pas, ma bonne Rose, ce serait se mettre au cou un franc collier de misère, ou prendre l'argent pour faire face aux premiers déboursés indispensables, puis est-il certain que l'on puisse toujours battre monnaie affublée d'une robe d'avocat ? Trop souvent, hélas, elle ne couvre les épaules que d'un piètre agent d'affaires véreuses, ou d'un maigre courtier de toutes sortes de choses. Et le vrai talent, que fait-il? Regardez, Joseph Landry, l'ancien amoureux de Jeanne Mercier, il végète à Montréal depuis tantôt 3 ans, vainement désireux de s'attacher à une clientèle récalcitrante en dépit de tous les diplômes universitaires possibles, et bien que la pauvre Jeanne l'attende toujours. Oh non! « Rose, je vous en prie, n'insistez pas sur ce sujet, car le droit m'effraie, avec tous ses déboires, toutes ses responsabilités, et dois-je le dire, avec toutes ses injustices. »«
Vous avez mal saisi la pensée de mon père, Jules, et vous savez trop combien il vous aime pour ne pas confondre ses avis avec ses ordres. Il n'y a pas que le droit qui puisse mettre à l'aise une honnête intelligence. Cherchez autour de vous. » Comparez les bonheurs qui vous entourent et peut-être, en regardant bien, saurez-vous trouver le vôtre ?
Le bonheur, ma bonne petite Rose, je sais bien où le trouver.
fit Jules en lui prenant affectueusement la main. « Malheureusement, je n'ai que mon instruction et mes deux bras pour y parvenir. Avec ce bagage-là, la route se fait longue, trop longue parfois. Mais savez-vous, Jules, que ces paroles sont plus que du courage? Il ne vous reste plus qu'une bonne décision à prendre. Allons, vite, faites-vous clair chez l'avocat Nicole. Si cela ne vous plaît pas, installez-vous commis derrière le comptoir de Rossignol. Les chiffres vous découragent-ils, griffonnés du papier timbré dans l'étude de l'ennuyeux notaire Bédard? Mais de grâce, faites vite, car si vos hésitations continuent, j'ai bien peur que notre nid de campagne ne se recule jusqu'aux frontières d'Espagne. Vous savez, cette maisonnette, Jules... » s'interrompit Rose en se dégageant la main du geste le plus félin du monde. « Oh, chère maison si rêvée et si lointaine pourtant !» reprit Jules avec mélancolie. « Je l'entrevois d'ici » continua-t-il en se fermant à demi les yeux dans un songe extatique. « À peine aperçoit-on son pignon blanc au milieu d'un bouquet de sapins verts. Elle a un étage, pas plus. Les fenêtres laissent ça et là passer au vent leurs blancs rideaux. Canards, oies et poulets picorent à qui mieux au-dessus du balcon. Pendant que la porte mi-entrouverte laisse apparaître une femme, la fée de la chaumière, qui s'en vient causer avec les fleurs du jardin pendant que les enfants dorment là-bas. Car je veux qu'il y ait des enfants. Oh, Jules, vous allez trop vite, fit Rose qui, les joues empourprées comme une cerise de juillet, venait d'accepter le bras du taciturne marguillier Nicolas Grondin. Arrivé en tapinois auprès des deux rêveurs pour rappeler d'un air timide et gauche à mademoiselle que la gigue promise frétillait déjà sur l'indiscrète chanterelle des violons. Longtemps, Jules suivit des yeux celle qui le faisait tant hésiter sur le choix d'un avenir, car il voulait le lui faire Rose, comme son nom. Les chassés-croisés de la joyeuse compagnie qui sautait et trépignait autour de lui laissaient entrevoir par-ci par-là une jolie robe d'indienne frappée, sur le dos de laquelle retombait en nattes dorées une chevelure blonde et massive. C'était Rose, sans contredit la plus fraîche et la plus mignonne fillette des environs, même à une bonne distance à la ronde. Tout le monde le savait, Jules le premier, seul Rose et le dévot marguillier semblaient l'ignorer. Bientôt, un cotillon remplaça la gigue mourante, puis ce fut le tour d'un ril, puis d'un quadrille, puis d'une danse ronde, et Rose, infatigable en bonne maîtresse de maison, passait du bras de Thomas Toupin à celui de François Bélanger, de Gervais Lalonde à Germain Lambert, sans fatigue apparente, jusqu'à l'heure du réveillon, ainsi que l'exige l'étiquette canadienne-française. Mais dès que les nombreux invités furent confortablement installés autour de la table ployante, et que les chansons à boire et les santé se prirent à circuler de convive à convive, Rose, sous un prétexte quelconque, pria sa tante Marguerite de faire les honneurs du logis et revint auprès de Jules qui, debout dans un des angles de la salle, regardait distraitement le salon vide. « Je me sens fatiguée, » lui dit-elle, « et avant de monter à ma chambre, j'ai tenu à venir vous dire bonsoir. J'espère pouvoir me glisser inaperçu au milieu de toute cette gaieté qui monte. »«
Inaperçu? Vous êtes plus cruelle, Rose, » répliqua Jules. « Vous êtes une petite égoïste, car vous semblez toujours oublier que je suis là. »«
Méchant cousin, » fit Rose en lui présentant son front à baiser. « Bonsoir, à demain. » Hélas, le lendemain devait être triste, bien triste, et puisque j'ai entrepris de raconter cette navrante histoire, il me faut maintenant aller jusqu'au bout. Rose, envolée, aucun attrait ne retenait Jules au logis de l'oncle Bernard, et il s'achemina tranquillement chez lui, par un de ces froids piquants que produisent toujours les gelées blanches de septembre. De son garni, il vit les lumières de la fête s'éteindre une à une. Seule une veilleuse tremblotait toujours dans la chambre de Rose. Longtemps, malgré la fraîcheur de la nuit, il se tint la figure collée aux vitres, épiant et cherchant à deviner ce qui pouvait tenir la rieuse cousine éveillée. Mais de chez lui, on n'entrevoyait pas de face la fenêtre de Rose. Et lassé de l'inquiétude qui commençait à le gagner, il prit le parti de s'envelopper dans son épais capot d'étoffe du pays et d'arpenter philosophiquement le chemin du roi en face de la maison de l'oncle Bernard, décidé à ne s'en aller qu'avec l'agaçante lumière. Mais à peine mettait-il le pied sur le seuil que quelqu'un se prit à chuchoter auprès du balcon de Rose. Jules se rappelait avoir souvent entendu cette voix, mais par cette nuit obscure, il était impossible de la donner à une personne connue, lorsque tout à coup la porte en s'ouvrant inonda d'un jet de lumière la douce et sainte figure du curé de la paroisse. Elle était à demi cachée par les bords de son large chapeau, et ses deux mains jointes semblaient dissimuler quelque chose sous la longue houppelande noire passée frileusement par-dessus sa soutane. Le vieil abbé n'avait pas franchi la dernière marche du perron que déjà Jules, tout atterré par sa présence, se tenait respectueusement à ses côtés, interrogeant de l'œil la servante Gertrude qui, pour toute réponse, fit briller une grosse larme sous ses cils gris, en dirigeant un regard muet vers l'appartement de Rose. Jules y était arrivé avant ce coup d'œil chargé d'angoisse. Hélas, le bal Bernard avait eu le dénouement qu'a décrit un poète. Dans les lustres blêmis, on vit grandir le cierge. La mort mit sur son front ce grand voile de vierge qu'on nomme éternité. Déjà Rose ne pouvait plus parler. Depuis 3/4 d'heure, une angine couenneuse s'était déclarée, à la suite de l'action traîtreuse du chaud et du froid. En ce moment, elle avait ce délire effrayant de calme et de majesté qui précède certaines agonies, car pour la pauvre Rose, l'agonie approchait et, cela est bien triste à dire, le docteur Buteau ne se trouvait pas là pour en surveiller les terribles progrès, les arrêter, les modérer ou les couper net grâce à sa science incontestée. Il était précisément parti depuis 1 heure pour aller faire les couches de Josette Brochu, la fileuse, qui demeurait à 2 grandes lieues de là. Le vieux Bernard avait essayé tout ce que l'amour paternel pouvait lui suggérer de plus propre à maîtriser le mal. Et de l'avis de la tante Marguerite, il ne restait plus maintenant qu'une seule voie de salut, les saintes huiles. Ce que le curé essayait très pieusement en ce moment, administrant l'extrême onction au milieu des pleurs de la petite famille qui, en sanglots, récitait la prière des agonisants. Jules était abîmé dans son insondable douleur. Il n'entendait rien, ne voyait rien, ne comprenait rien au drame lugubre qui se passait. La morne ivresse du désespoir venait de le saisir. Autour de lui, on psalmodiait, et la vieille servante Gertrude en était déjà venue à ce verset de la prière suprême. « Offerente senam in conspectus altissimi. » Le pauvre monsieur Bernard, vieilli de 6 longues années depuis le réveillon de minuit, répondit alors en sanglotant « Ma pauvre Rose est finie. » Jules se prit la tête dans ses 2 mains et murmura lentement « Oh, mon Dieu ! S'il est possible que pareil calice d'amertume puisse s'approcher de nouveau d'une lèvre humaine, donnez-moi la science pour le briser et faites-moi médecin pour que je puisse en sauver d'autres, en souvenir d'elle. » Partie 3. Belle aux cheveux blonds. Depuis déjà 5 mois, Jules Porlier suivait à Montréal les cours de l'Université McGill. Par les soins de l'oncle Bernard, il s'était installé dans une modeste pension de la rue Lagauchetière. Et précisément ce soir-là, il y avait chez son voisin de chambrée, Ulrich Bertrand, un comité de carabins réunis pour étudier et repasser ensemble les cours déjà donnés par les professeurs. Toutes les têtes fortes de première année faisaient cercle dans cette mansarde, où l'épaisse fumée de leur brûle-gueule se trouvait mal à l'aise. Ils étaient tous là, Pierre Michon, Edmond Talbot, Edouard O'Brien, Luc Renvoisé, Prudent Furoy, Robert de la Durantaye et bien d'autres, dont les noms m'échappent maintenant, riant, crachant, fredonnant, s'étudiant à prendre les poses les plus délabrées. Et ne travaillant guère. Car Jérôme Mignot venait de faire son apparition sur le seuil de la porte, tenant sous son bras trois bouteilles de Old Rye et à la main quatre boîtes de sardines en conserve qu'il avait, à force de diplomatie, arrachées à la mère Sweeney, la vieille épicière du coin. En un clin d'œil, Cazot, Orfila, Trousseau, Churchill, Wilson, Hunter, Grisole, etc., toute la file de ces auteurs soporifiques, autant que scientifiques, était allée s'endormir sous les meubles d'Ulrich Bertrand, à côté d'une vieille trousse Mathieu. Le quart d'heure de Rabelais venait de sonner pour eux, car on se préparait à confectionner une brosse, mot parfaitement acclimaté dans le vocabulaire des étudiants en médecine, et pendant qu'Edmond Talbot, le seul de ces messieurs qui fut propriétaire d'un tire-bouchon, se disposait à travailler, Ulrich Bertrand, voyant Jules faire mine d'aller se coucher, reprit la conversation interrompue par l'arrivée des produits commerciaux de la mère Sweeney.
Comment se fait-il que l'on ne t'ait pas encore vu à la dissection, Jules?
La chose est toute simple, Ulrich. Et riez de moi si vous voulez, messieurs, mais je ne puis prendre sur moi de vaincre mon extrême répugnance à tailler dans la chair humaine. Peut-être cela viendra-t-il plus tard, car il le faut bien, ajouta-t-il en poussant un profond soupir.
Allons donc !
Interrompit la bande joyeuse.
Jules Parlier, le plus fort étudiant de première année, trouve femmelette pour donner un coup de scalpel.
J'ai une recette infaillible pour vaincre ta répugnance,
reprit Ulrich Bertrand.
Et cette recette?
Dit Jules.
L'école a besoin de sujets. Viens avec nous. Tu nous aideras à faire notre prochaine radia.
Oh, pour cela, non!
Répondit Jules d'un ton qui n'admettait pas de réplique.
Le truc n'est pas malin, et pourtant je n'ose pas te blâmer, Jules,
reprit Ulrich Bertrand.
Car moi qui te parle, j'ai bien eu mes petites répugnances. Mais aujourd'hui c'est différent. Je crois sincèrement que je serai de force à enlever le meilleur ami de mon père. Mort, ça s'entend. Pour en faire un sujet. Il ne naît pas un chirurgien sans qu'il en coûte à l'humanité. Et comme je me sens en verve, ce soir, je veux vous raconter un épisode de mes nuits de résurrectionniste. À votre santé, mes tourlourous.
« Salut !»
reprit la troupe altérée en chargeant à qui mieux mieux Pip, Bouffard et Codmer dans l'immense pot à tabac placé auprès des bouteilles.
« Il y aura de cela vendredi prochain 3 mois. »
commença Ulrich Bertrand en essuyant sa grosse moustache rousse.
« C'était la nuit de la Sainte-Catherine. » Le matin même, notre protecteur nous avait délicatement insinué dans les trompes d'Eustache que la table de dissection avait faim. Et je ne fus pas long à arranger une petite expédition avec Marc Beaulieu et Augustin Marchand, que je rencontrai flânant au Thérapin. Le soir de la Sainte-Catherine, nous étions donc en route, cheminant de l'autre côté du fleuve sur le chemin du roi de Longueuil. Une neige floconneuse l'argentait, notre carriole traînée par un bon cheval, loué chez Dumaine, allait grand train. Malgré une énorme cruche de Molson surveillée amoureusement par Augustin et un immense paquet de conserves que ce gourmand de Marc avait songé à apporter. Pour ma part de gâteau, je m'étais chargé d'une pelle, de deux pics, de deux cordes, menus objets nécessités par notre voyage. Et c'était vraiment plaisir d'entendre de temps à autre l'harmonieux cliquetis que tout cela rendait ensemble. Quand ces objets se rencontraient au fond d'un chaos, ils exécutaient une musique qui sentait son cadavre à trois cimetières à la ronde. Le tout trottinait à merveille, ne s'arrêtant de temps à autre que pour nous permettre de boire un coup de hot scotch aux auberges connues de l'intéressant Augustin qui, je dois lui rendre cette justice, possédait son itinéraire à merveille. Dans l'une d'elles, je me rappelle qu'il fit part d'une de ses meilleures théories.
« Le whisky écossais pris chaud,
disait-il,
est excellent. Il laisse primo un doux parfum de fumée au palais qui vous rappelle à s'y méprendre celui de la pipe culottée laissée au logis. Segundo, l'hiver, il concentre au foie une chaleur toute bienfaisante. Et tertio, prise à dose répétée, il sème sur les lèvres de ses chansonnettes comme seuls savent en fredonner les excellents montagnards qui le distillent. Grivoiseries inoffensives qui feraient rendre des points à la douce gaieté du poète Burns, un Écossais modeste s'il en fut un. Chaque jour, il creusait dans sa cave d'aussi large sillon que sa charrue en laissait dans son champ.
« Allons, mes chères brebis !» Pour me servir de l'heureuse expression de Madame Deshouillères en souvenir d'Augustin retenu ce soir par les suites désastreuses d'un violent mal de cheveux. À la santé du chansonnier Burns. À force d'avaler du hot scotch, le temps semblait se refroidir singulièrement autour de nous. Et ce diable de cimetière s'allongeait toujours devant les naseaux fumants du cheval. Il fallut recourir aux moyens violents pour nous remettre sur le train. Et Augustin songeait que c'était là, le temps ou jamais, de placer ce célèbre chant du Fossoyeur que je composai en un jour de folle gaieté. Je fis des mines, car il y avait une rime qui clochait. Cercueil et linceul se marient fort bien au fond d'une fosse, mais pas en poésie, paraît-il. Malheureusement, Augustin n'est pas né puriste, il entonna. Ça va sur un air inconnu et il y a un refrain.
Le chant du Fossoyeur. Les morts pour moi sont bonnes aubaines, il m'en vient par toute saison. J'en crèverais bien à la peine s'il fallait compter ma moisson. À moi, la pâle fiancée, houppe mes cordes sous ce cercueil, couche-toi là, ma trépassée. Dors en paix sous ton frais linceul. Et puisque la besogne est faite, vite buvons un petit coup, cela vous met le rire en tête, j'ai soif, et j'ai creusé mon trou. À moi le pauvre, à moi le riche, à moi la mère, à moi l'enfant, à mon jeu personne ne triche. Celui qui gagne, est le perdant. Mon pic en main, je fais la carte, le gazon vert sert de tapis. Je mêle, et personne n'écarte, mes beaux joueurs sont endormis. Et puisque la besogne est faite, vite, buvons un petit coup. Cela vous met le rire en tête, j'ai soif, et j'ai creusé mon trou. Le soir venu, je siffle et gère, souriant à mes croix de bois, seul avec mon vieux cimetière, j'ai l'air ainsi d'un bon bourgeois. Je bais aux cieux, puis je fredonne, entre mes dents un air ancien. À mes pieds l'insecte bourdonne, l'herbe épaissit et monte bien. Et puisque la besogne est faite vite, buvons un petit coup. Cela vous met le rire en tête, j'ai soif, j'ai creusé mon trou. Un jour pourtant notre camarade me couchera dans le Saint-Foin, là près du mur qui se lézarde, mais je ne vais pas dans ce coin. La mort est triste et je l'abhorre, j'ai peur de dormir là-dedans, c'est pour cela que dès l'aurore je creuse et bois. Tuant le temps, ma gorge est une large fosse où la mort glisse à petits pas. Un fossoyeur chante et se gausse jusqu'à l'heure de son trépas.
Le refrain faisait merveille, on le répétait à tue-tête. Et pourtant ce diable de cimetière trottait toujours devant nous. Enfin, une maison de sombre apparence se dessina lentement à notre gauche, et amoindrissant poliment les sons de sa voix de basse taille, Augustin nous dit
« Attention, mes futurs confrères, c'est ici que vont commencer les précautions. Il va falloir insinuer le cheval dans ce fourré de sapin et escalader ce grand mur gris qui sort de ce banc de neige là-bas. Passe-moi un pic, Ulrich. »
Est-ce qu'on n'en décapite pas une?
Hasarda timidement Marc.
Tu as de l'esprit, toi, et tu finiras par avoir la spécialité des hydropisies. Puisque tu le veux bien, passe-moi la cruche avec le pic.
Un glouglou sonore fit le tour, puis la carriole poussée par 6 bras vigoureux alla se confondre avec les rameaux ployés par la neige. Et 10 minutes après, nous commencions à entamer la terre durcie d'une tombe, placée à l'angle droit avec la grande croix du cimetière. Nous travaillions doucement, et bien doucement, de peur d'éveiller les gens. Et surtout les chiens du voisinage. Nos mains étaient bleuies par l'onglet, ce qui n'empêchait pas les pieds de tomber régulièrement. Ils grinçaient bien de temps à autre sur un caillou subitement ramené au grand air. Mais en somme, ce n'est pas trop dangereux car pas un chat ne rôdait autour du champ des morts. Un remblé de 6 pieds de terre gelée gisait sur la neige maculée. Lorsque nous atteignîmes la tombe, au fond de ce trou informe, il faisait noir comme dans un four. Mais Augustin et Marc avaient des yeux de loup cervier. Pendant que je faisais le guet, à genoux tous les deux sous les ais ouverts et craquetant, ils arrachaient lestement un fragment de cercueil, brisé à sa partie supérieure par un maître coup de pique. Le bras de Marc disparut alors dans l'ouverture. Je frissonnais des pieds à la tête. Car pour rien au monde, je n'aurais voulu être à sa place en ce moment. Mais, faisant fi du contact marmoréen de ce cadavre, Marc enroula son bras gauche autour d'une poignée de cheveux, tira violemment le contenu hors de sa boîte et, comme le temps pressait, une lumière passait et repassait derrière la fenêtre du bedeau. Augustin procéda à la toilette, déchirant promptement ce qui devait être le suaire, car il était défendu de toucher à la garde-robe des bourgeois de l'autre monde. Une corde fixée autour des reins, le cadavre sortit tranquillement du lit où il dormait. En un clin d'œil, la fosse reprit à peu près sa physionomie première, et 5 minutes plus tard, notre sujet était douillettement couché dans le coffre de la voiture, les genoux ramenés sur la poitrine, car la carriole n'était guère large. Le lendemain soir, nous rentrions triomphalement à Montréal, revenus par un train d'enfer. C'était Augustin qui conduisait. Et pourquoi le cacherais-je? Les auberges étaient fermées. Et m'endormant, je l'entendais chuchoter.
Notre sujet devait être d'excellente famille. Il avait une bien belle robe de tulle blanc.
J'attachais peu d'importance à ce détail car j'avais sommeil. Mais le matin, en entrant dans le cabinet de travail, je revis notre trouvaille nocturne, vrai bijou anatomique, ravissante dans ses contours, dans sa blancheur mate et dans son immobilité. C'était une vraie statue grecque déterrée des ruines du Parthénon. Je ne la décrirai pas plus longuement car, depuis, elle s'est embrouillée dans ma mémoire avec bien d'autres. Mais je dirais que nous mîmes 8 jours à en faire un squelette superbe et, puisque cette histoire semble vous intéresser, j'ajouterai que, par un curieux procédé d'injection, j'ai réussi à préserver le crâne. Non pas tel que nous l'a remis le cimetière de... Tiens, c'est trop fort d'avoir son nom sur le bord des lèvres sans pouvoir le dire. Qu'importe, c'était dans le comté de Verchères. Mais tel que la science me l'a gardé avec ses magnifiques tresses de cheveux blonds. Il est là, dans l'enfoncement de la boiserie, au-dessus de la porte. Voyez-vous s'allonger sur la muraille l'ombre de la pipe que ce farceur d'Augustin lui a glissée entre les dents? À nos bouteilles maintenant, et gare à la sardine!
À la santé du bonnet de nuit, Gilles Parlier, qui n'a même pas entendu la fin de ton récit pour s'endormir!
Reprirent en chœur les carabins. Jules, pâle comme la pauvrette exposée naguère sur la table de dissection, n'était pas pourtant endormi. Son âme avait faibli en face du crâne d'ivoire qui fut Rose Bernard. Et il venait de perdre connaissance. Ô science, que de crimes commis en ton nom! Partie 4. Sunte lacrimae rerum. Il y a des larmes. La veille de la Toussaint de 1866, 4 ans après, je visitais en compagnie de quelques amis l'asile de Beauport. Dans les immenses prairies qui entourent ce château de la folie, les pauvres d'esprit allaient se promenant et causant entre eux de leurs rêves insensés. Le docteur Turcotte, homme de cœur, véritable providence, donné par une autre providence pour veiller sur ce morne cimetière de la pensée, m'avait indiqué plus d'un cas curieux lorsque tout à coup, en tournant le carrefour d'une allée de sapins, il s'arrêta devant un jeune homme au front bas, à l'œil triste et vague, qui lisait discrètement, couché sur des feuilles mortes.
« Voilà, me dit-il, un cas excessivement grave. Ce jeune homme que vous voyez là offre une folie tranquille, douce et pourtant incurable. Il passe ses journées à lire les contes fantastiques d'Hoffmann. L'Albertus de Théophile Gautier lui est familier. Edgar Poe ne le quitte pas. Charles Baudelaire est son favori. Et il m'est impossible de le tirer de cette littérature imprégnée de bière, de nicotine et d'opium.
Mais, répliquai-je, n'y aurait-il pas moyen de l'en distraire et de lui ôter ses moyens d'alimenter son imagination malade en éloignant de lui les livres qui la surexcitent?
Impossible, mon bon! Il est doué d'une mémoire implacable qui lui représente sans cesse les scènes les plus terribles de ses conteurs fantastiques. Vous allez en juger par vous-même. Jules,
fit-il en se penchant et en lui touchant l'épaule bien doucement. Le pauvre interpellé se retourna lentement vers le docteur Turcotte. Un instant, ses yeux ternes s'arrêtèrent sur la figure honnête de celui que tout le monde appelle le médecin des pauvres. Puis tout à coup, un éclair étrange passa dans sa prunelle vague. Il fit un geste terrible et, d'une voix brisée,
« Vandaliseur damné, abominable race hyène qui suivait le cortège à la trace pour déterrer le corps, aurez-vous bientôt fait de déterrer les bières pour mesurer nos os et peser nos poussières? Laissez dormir les morts. Mais maître, savez-vous qui donc a pu le dire, ce qu'on sent quand la scie avec ses dents déchire nos lambeaux palpitants? Savez-vous si la mort n'est pas une autre vie? Et si, quand leur dépouille à la tombe est ravie, les aïeux sont contents? Ah! Vous venez fouiller de vos ongles profanes nos tombeaux voilés pour y prendre nos crânes? Vous êtes bien hardis! Ne craignez-vous pas qu'un jour, pâle et blême, trépassé se lève et vous dise « Anathème !» comme je vous le dis? Vous imaginez donc dans cette pourriture surprendre les secrets de la mère nature et le travail de Dieu? Ce n'est pas par le corps qu'on peut comprendre l'âme. Le corps n'est que l'autel, le génie et la flamme. Vous éteignez le feu! »
Le fou avait su donner à ses vers de la comédie de la mort de Gautier un tel accent de l'autre monde que le frisson en serait passé sur le scalpel d'un athée médecin. Instinctivement, je pressai le bras du docteur qui m'entraîna dans son cabinet particulier. Un bol de punch et de longues pipes nous y attendaient, et c'est entre deux ouateuses spirales de fumée qu'il me raconta la triste histoire de Jules Porlier et de sa belle aux cheveux blonds.